Bonjour.
Bonjour.
Je rêvais de vous rencontrer, d'abord parce que je suis en train de faire des jalouses, et puis parce que j'étais convaincue que les éclairages de plateaux de télévision sur lesquels on vous voit étaient à l'origine de cette lumière qui semble éclairer le bleu de vos yeux, mais de l'intérieur. Et non, ici, il n'y a pas d'éclairage particulier, et pourtant la lumière jaillit de vos yeux. Vous avez une explication à ce phénomène ?
Vous savez, on me dit quelquefois que je suis fou de télévision. Ce n'est pas exact. J'ai la chance d'être invité à la télévision ou à la radio, j'essaye de m'amuser le plus possible, d'être le plus naturel possible et de passer des instants aussi agréables que possible.
Vous ne répondez pas, donc. Peut-être. Cette lumière-là, c'est peut-être ça. Cela dit, on aimerait tous croire que cette lumière intérieure, cette énergie qui vous anime, est le fruit discret d'un dialogue intime avec Dieu, qui, comme chacun sait, est lumière. Mais croire en Dieu est tout de même une gageure à laquelle bien des esprits, eux aussi éclairés et rationnels, se refusent. Comment fait-on cohabiter foi, raison, intelligence, Jean d'Ormesson?
Eh bien, vous savez, je dois vous dire tout de suite que je suis un peu particulier. J'ai été élevé dans la religion catholique. Quand on dit qu'on a été élevé dans la religion catholique, c'est en général qu'on l'a quitté. Je ne l'ai pas quitté. J'espère mourir dans la religion catholique. Mais vous dire que j'ai la foi chevillée au corps et que je sais que Dieu existe, je ne le sais pas. Je suis un catholique agnostique et j'ai vu avec assez de bonheur quelqu'un que j'admire beaucoup comme Sœur Teresa a passé sa vie à douter. Et vous savez, j'ai essayé dans ce livre de parler de ce qu'il y a avant l'existence du monde. J'ai consacré 2 livres à l'histoire de l'univers. Il s'appelait « C'est une chose étrange à la fin que le monde », le titre est assez clair, et « Un jour je m'en irai sans en avoir tout dit ». Et j'ai exploré un peu en romancier les 14 milliards d'années qui nous séparent de nos origines. Et ce livre-là est un peu plus ambitieux. Il pose la question « Qu'est-ce qu'il y avait avant ?» les 14 milliards d'années, et aussi qu'est-ce qu'il y aura après notre mort à chacun de nous. Et on peut se poser 2 questions, est-ce que c'est le même rien, et est-ce que c'est même un rien? Voilà ce que je me pose comme question. Et pour répondre sur Dieu, je dirais que je ne sais pas s'il existe, mais je peux dire que j'espère qu'il existe. J'ai peut-être remplacé la foi par l'espérance.
Je vais précisément lire un extrait. C'est un livre relativement court, fait de tout petits chapitres.
Très court.
Qui sont des incises et des questionnements sur Dieu, sur la nature, sur l'homme, sur l'évolution, sur le monde. Et j'ai choisi le chapitre 26. Avec Dieu, écrivez-vous, c'est tout simple. La vie des hommes est une épreuve et le monde est le théâtre où se joue cette épreuve. Toute vie est une lutte contre les éléments, un effort pour subsister, un rôle à jouer pour cet acteur qu'est tout être vivant. La vie est une épreuve pour l'éphémère, pour la fourmi et pour l'abeille, pour le chien et le chat, pour l'âne, pour le chameau, pour le lion dans le désert. Elle est une épreuve pour l'homme doué de pensée et de liberté. Au bout de toute vie, il y a un terme de l'épreuve, c'est la mort. Les justes, les bons, les gens de bien qui ont affronté la souffrance et qui n'ont pas cédé au mal, ni succombé à la tentation, seront récompensés. Ils verront Dieu, la vérité leur sera donnée, ils échapperont au néant et aux flammes de l'enfer où seront jetés les méchants qui auront fait le mal. Instruments de l'épreuve divine, la souffrance et le mal sont enfin justifiés. J'ai choisi ce chapitre à dessein, en me demandant si vous jouiez dans ces textes avec nous, un peu comme le chat joue avec la souris, ou encore si vous jouiez avec vous-même.
Écoutez, vous savez, c'est tout à fait exact comme formule. J'avais pas pensé à ça, c'est tout à fait exact. Il y a dans ce texte que vous venez de lire, il y a un peu de conviction et peu d'ironie, Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas à ça. Il y a des gens qui ne croient pas. Dieu est évidemment extraordinairement cohérent, extraordinairement consolant. C'est une merveille, vous savez, de croire à Dieu, parce que les choses prennent un sens. Le seul problème, c'est est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est une illusion ? Je dois vous dire que j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ne croient pas en Dieu.
Pour leur courage, finalement.
Pour leur courage. Comment est-ce qu'ils vivent ? Comment est-ce qu'ils vivent ? Non seulement les gens qui ne croient pas en Dieu vivent comme les autres, sans aucune espérance, mais il leur arrive de faire du bien aux autres. Au nom de quoi ? Par amour de l'humanité. Et vous savez, j'admire ça beaucoup, parce qu'un chrétien, un catholique, un protestant, je sais que pour les protestants, l'œuvre pour le protestant, c'est plus difficile. Mais enfin, pour le juif, pour le musulman, pour le chrétien, s'ils croient en Dieu, ils ne font pas le bien pour Dieu. Mais ils se disent quand même que peut-être ça leur servira un peu. L'athée qui fait du bien. Je disais à un médecin qui ne croit ni à Dieu ni à diable, vous serez assis à la droite de ce Dieu auquel vous ne croyez pas.
Pourtant, à la page précédente, dans le chapitre précédent, Jean d'Ormesson, vous n'êtes pas dupe. Et comme ça, vous saurez à peu près où je me situe par rapport à la croyance. L'immense avantage de Dieu, écrivez-vous, qui est si peu vraisemblable, oui, est de donner au monde, invraisemblable lui aussi, une espèce de cohérence et quelque chose qui ressemble à l'espérance.
Voilà, exactement. Alors,
vous n'êtes pas dupe.
Non seulement je ne suis pas dupe, mais je m'interroge sans cesse. Vous savez, il y a une formule que j'avais employée qui est « je doute en Dieu ». Je doute en Dieu. Mais c'est vrai que Dieu est invraisemblable. Mais est-ce que le monde où nous vivons n'est pas invraisemblable ?
Ça dépend de d'où on le regarde.
Voilà, c'est ça, c'est la clé. C'est la clé. Ce monde est invraisemblable. J'ai devant moi un verre d'eau. L'eau est une matière invraisemblable. C'est une matière, vous pouvez prendre de
H2O,
l'eau.
H2O, vous répondrez un scientifique.
Oui, mais vous pouvez avaler cette eau et vous pouvez entrer dans cette eau. Vous pouvez vous baigner et vous pouvez boire. C'est une matière extraordinaire. La lumière est quelque chose de stupéfiant. Bon, vous savez qu'elle fait 300 000 km à la seconde. Elle met une seconde pour parvenir à la Lune, puisque la Lune est à 400 000 km. Elle met 8 minutes pour parvenir au Soleil. Et elle met des millions d'années pour aller. Et s'il y a des gens au loin qui nous regardent, c'est pas nous qui voient. Ils voient nos grands-parents, ils voient Jules César, ils voient peut-être les dinosaures.
Ils voient notre préhistoire.
Donc, la lumière transporte du passé. Donc, le passé, non seulement n'est pas mort, mais il n'est même pas passé. C'est des paradoxes formidables. Et le plus formidable paradoxe, c'est le temps. Le temps, c'est quelque chose de stupéfiant. Où est l'avenir ? Où est le passé ? Est-ce que ce n'est pas aussi invraisemblable que Dieu ? Si on voulait expliquer à quelqu'un qui ne sait rien de ce monde ce qu'est le temps, mais c'est presque impossible. Dans ses confessions, saint Augustin, cette formule magnifique, « Si tu ne me demandes pas ce qu'est le temps, je sais ce que c'est. Mais dès que tu me demandes ce qu'est le temps, je ne sais plus ce que c'est. » Eh bien, le temps est probablement aussi invraisemblable que Dieu, et pourtant, il y a quelque chose qui ressemble au temps.
Donc Dieu, dites-vous, donne de la cohérence au monde ?
Absolument. Enfin, que Dieu donne de la cohérence au monde, c'est évident.
Et de l'espérance.
Et de l'espérance.
Voilà.
Et même le mal est expliqué, parce qu'il sait mieux que nous ce qu'est le bien et le mal. Il y a une formule de Sainte Thérèse d'Avila qui est si belle, que de larmes seront versées sur des prières exaucées. Dieu sait mieux que nous ce qui est bien pour nous. Mais est-ce qu'il existe ? L'important, c'est Dieu, qu'il existe ou qu'il n'existe pas.
L'espérance, le mot est donc évidemment dans le titre de votre livre, oui, comme un chant d'espérance. L'espérance comme délivrance de la douleur, de la peur, de la haine de soi, de la haine des autres, de la guerre, du mal en somme. C'est ça l'espérance ?
Écoutez, vous voyez bien que ce qui manque aujourd'hui, En France, c'est éclatant. En France, c'est éclatant, mais partout, c'est l'espérance. On se dit, est-ce que demain ne sera pas pire qu'aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avoir confiance en demain? Les gens ne croient plus. Le 19e siècle, au moins, ils croyaient à l'avenir, à l'aube, au progrès. Le progrès commence à nous inquiéter. Ce qu'il y a de mieux, on se dit, ça ne va pas durer. Est-ce que nos enfants vivront aussi bien que nous? Ce qui nous manque, c'est l'espérance.
Et si l'espérance était un peu comme la rédemption, c'est une sorte d'invention terrifiante pour empêcher les hommes de vivre.
Oui, vous avez raison, c'est aussi une chose. Il faut se méfier de tout, vous savez. Il faut se méfier
non, pas de vous.
Mais si. Vous savez, Mérivée avait une bague sur laquelle il était écrit Memnesti apistein. En grec, ça veut dire souviens-toi de méfier. Alors là, si vous jetez un doute sur l'espérance, en effet, on peut se dire, est-ce que l'espérance aussi n'est pas une imposture? Eh bien, il faut avoir, je crois, non seulement une espèce d'espérance, mais peut-être une espèce de confiance. Tout n'est peut-être pas perdu.
Jean d'Ormesson, vous êtes à mes yeux l'image parfaite du libertaire dandy. D'une exquise courtoisie, d'une élégance infaillible dans le comportement et la tenue, irréprochable et indifférente, continuant inlassablement l'exercice délicieux de la séduction. Cette attitude face à l'existence et à l'autre est une vertu chèrement acquise chez vous ou c'est une admirable barrière, c'est une ligne de défense impénétrable?
Je voulais dire deux choses très vite. Je suis infect. Je ne lis pas avec affectation, mais je ne suis pas ce personnage que vous dépeignez. Les zones d'ombre sont très, très, très fortes chez moi. Très fortes. Mais mes parents m'ont appris deux choses. Et peut-être seulement deux choses. La première, c'est qu'il faut travailler. Je me rappelle que mon père, ma mère, le travail, on travaillait. Et la deuxième chose, c'était qu'il fallait penser aux autres. Il fallait penser à la vieille tante qui n'allait pas bien, à la grand-mère qui était triste. Il fallait penser aux petits Chinois.
De l'empathie.
Oui, on m'a appris l'empathie. Plus peut-être même que la religion, on m'a appris l'empathie. Vous savez, la seule façon de servir Dieu, c'est de servir les hommes. On peut servir Dieu. Qu'est-ce que vous faites pour servir Dieu? Vous pouvez servir Dieu.
Tomber en prière.
Et être en prière et faire des choses abominables. Le djihad, c'est pas gay. Vous croyez que l'Inquisition était bien?
Non.
Vous croyez que les catholiques de Louis XIV se sont bien conduits à l'égard des protestants? Ah, vous savez, Dieu a couvert beaucoup de mal. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. C'est l'idée que les hommes se font de Dieu. Là aussi, souviens-toi de te méfier.
Jean d'Ormesson, si vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous êtes invité au Livre sur les quais. C'est une première visite à cette jolie manifestation?
Non, j'étais déjà venu à Morges. Vous savez, c'est très important pour les écrivains de rencontrer les lecteurs. Naturellement, il n'y aurait pas de lecteurs s'il n'y avait pas d'écrivains. Mais je suis persuadé qu'il n'y aurait pas d'écrivains s'il n'y avait pas de lecteurs. L'idée qu'on écrit pour soi-même est une idée folle. Si Robinson avait écrit un roman, sa première idée aurait été d'appeler Vendredi et de lui lire des passages de son roman.
C'est bien pour ça qu'il avait Vendredi d'ailleurs. Merci Jean d'Ormesson.
Merci à
vous.
Donc
rendez-vous dimanche sur les quais à Vevey.
Avec joie.
Ah ben, je l'espère. Comme un chant d'espérance, Jean d'Ormesson, paru de l'Académie française. C'est marqué.
Oui, c'est marqué.
Non, on ne peut pas, c'est un titre.
Oui.
Jean d'Ormesson de l'Académie française.
Vous savez ce que disait Jules Renard, c'est le commun des immortels.
Et c'est paru aux éditions Héloïse d'Ormesson, bien évidemment. Et c'est un roman,
c'est le roman de l'univers.
C'est le roman de Dieu et de l'univers. Merci Jean d'Ormesson.